Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter, émission en direct et en public depuis le Salon du Livre, un public nombreux et merci d'être là, merci chaleureusement de nous accompagner. Avant de retrouver Natacha Polony, Gilles Finkelstein et notre invité, je vous laisse deviner qui c'est en trois lettres, BHL. La semaine des humoristes de France Inter avec au sommaire l'Algérie, Paris à tout prix, le bilan du grand débat national et un autre scandale dans l'église catholique, le tout mis en onde par François Audouin.
Alors ça y est, le président Bouteflika renonce à la présidentielle. Bon, c'est pas plus mal, hein. Maintenant il va pouvoir profiter de son temps libre, s'adonner à ses nombreuses passions comme le ski acrobatique ou le kung-fu, encore bien d'autres. En même temps, là, je regardais des images sur l'écran qu'on a dans le studio et je dis que c'est dommage parce que Bouteflika avait encore l'air en pleine bourre, enfin bref.
Long, poussif, assez inutile. Si on écoute les mauvaises langues, le grand débat national sera à l'image d'un rapport sexuel avec Alex Vizorek. Ben moi, je suis pas d'accord. En analysant les chiffres, on voit que les Français se sont rués sur le grand débat comme les proches de Pascal Pro se ruent sur des boîtes de Xanax. 1,4 million de propositions citoyennes postées sur le site internet créé pour l'occasion. Alors, niveau propositions, on trouve de tout, hein, comme je lis, hein, rejouer le 8e de finale PSG contre Manchester, mais aussi il fallait s'y attendre, des propositions plus farfelues, plus insolites, comme plus de justice fiscale. 1,4 million de propositions auxquelles il faut ajouter 400 000 pages de doléances déposées en mairie. C'est énorme, hein, si je fais un rapide calcul, j'estime qu'il faudra aux équipes du président plus de 2 semaines, hein, pour tout passer à la broyeuse. Gros succès, donc.
Il est 7h57, Charline Vanhoenacker. Charline, c'est à vous là.
Pardon Nicolas, oh là là, parce que je suis encore sous le choc de cette annonce là. Gaspard Ganzer est candidat à Paris. Po. Gardez Thomas Legrand là, il est tout ébobi aussi. Ça rebat toutes les cartes ça. Ça s'écrit comment, Ganzer?
Trop dur.
Ouais, parce qu'on part de loin, là, il y a du boulot quand même. Hein. Bon, notez, ça fait plaisir que vous ayez choisi notre chaîne pour vous déclarer, parce que d'habitude, nous, on fait dans les démissions de ministres. Ça change. On va apprendre à mieux vous connaître, alors. Je vois que vous avez été donc le conseiller en communication de François Hollande. Alors, ça ne le rappelait pas trop fort, quand même. Voilà. Alena, donc, l'a rappelé aussi, vous sortez de la même promo que Macron. N'insistez pas trop là-dessus, non plus, dans un conseil. Ah, regardez, Léa, ça y est, voilà. Je vois la dépêche AFP qui vient de tomber. Ganzer, candidat à Paris. Oh, pfou, ça va vite. Hein. À l'heure où vous parle, vous êtes déjà en top tendance Twitter avec le hashtag France Inter, hashtag mairie de Paris, hashtag Gaspard Ganzer, hashtag c'est qui. Voilà, bah, c'est la petite part de mystère, c'est bien, voilà.
Quand on regarde l'actualité catholique, c'est vrai qu'ils ont une drôle de façon de célébrer le carême, quand même. Hein, là, il y a un scandale qui vient d'éclater, c'est celui des bonnes sœurs violées dans l'église. C'est horrible, il y a plein de sœurs qui se font violer. Et il y a un livre qui est sorti aussi qui s'appelle Sodoma, sur le poids de l'homosexualité dans l'église. C'est vrai que tu regardes les titres des documentaires sur l'église en ce moment. Sodoma, religieuse abusée. C'est vrai qu'on n'est plus dans la religion, on est plus à l'arrière d'un vidéoclub avec des cassettes et des vieilles jaquettes. Religieuse abusée, voilà. Et donc là, le petit plus, il est tombé la semaine dernière, c'est le directeur du diocèse de Nantes qui est responsable de l'enseignement de 100 000 élèves dans l'enseignement catholique, et le gars est mis en examen pour trafic de cocaïne. Voilà, alors ça aurait été du chichon, j'aurais dit encore, je dis pas, mais bon, là c'est de la cocaïne. Donc là, qu'est-ce que t'as fait, doudou, dis donc. Hein, c'est quand même moche pour le gars, c'est vrai qu'on est même pas au week-end de l'ascension, le gars est déjà en grosse descente à mon avis. Voilà, donc de nouveau, déboire à gérer pour le pape François, et ça a commencé vraiment à le gonfler le pape François, parce que c'est vrai que quand c'était Benoît XVI avant, il était pas sympa, on l'aimait pas trop Benoît XVI, il était un peu nazi-nazo. Et là, quand pape François il est arrivé, c'est vrai que tout le monde a dit hey, il est cool pape François, on l'aime bien. C'est vrai, il est détendu. Et au bout d'un moment, pape François il a dû dire bon, c'est vrai que là, je suis cool, mais les gars, on se calme quand même.
C'était la semaine des humoristes et vous aurez reconnu par ordre d'apparition Daniel Morin, Pablo Mira, Charline Vanhoenacker et Thomas VDB. Le grand face-à-face est en direct et en public du Salon du Livre de Paris. Un autre salut chaleureux au public très nombreux qui nous accompagne. Bonjour à vous et merci d'assister à l'émission. Mes compagnons du samedi sont à mes côtés, Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Dans une quinzaine de minutes, que reste-t-il de l'idée européenne, celle que portaient les pères fondateurs de l'Europe? Nous ouvrirons le débat avec Bernard-Henri Lévy, ce sera juste après le duel. Mais puisque l'Europe est à l'honneur du Salon du Livre, petite interro surprise. Gilles, de qui est cette phrase? Le match entre gentil progressiste contre méchant nationaliste ou gentil patriote contre méchants mondialistes que nous préparent les catcheurs habitués aux mises en scène grandiloquentes n'aura pour effet que de masquer une fois de plus les enjeux les plus cruciaux.
Eh bien, je sèche, ça commence fort bien, je ne sais pas.
C'est signé Natacha Polony.
Ah, oui.
Un édito dans Marianne.
Heureusement, je m'étais reconnue.
Natacha, oui, c'est plutôt rassurant.
Ça va, je me souviens de ce que j'écris.
Il en aura fallu des efforts pour passer de Gramsci à Gucci.
Ah, là, je peux répondre.
Allez-y, Natacha. En plus, c'est un auteur que vous adorez.
De Gramsci à Gucci.
Régis Debray. Régis Debray, cité par Gilles Finkelstein. Rapide explication de texte, Gilles.
C'était dans un livre qui a déjà quelques années de Régis Debray, qui était une critique de l'évolution et pour Régis Debray des dérives de la social-démocratie.
Et une dernière question à tous les deux, qui a dit récemment « L'Europe est une réalité si forte qu'elle n'a pas besoin de devenir populaire ». Ça peut vous sembler paradoxal.
Oh, celui-là, il est magicien, oui.
Ouais.
Il faut être philosophe pour dire une chose pareille. C'est Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, dans Le Point cette semaine. On va continuer à parler d'Europe, évidemment, à suivre le duel.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Comme tous les samedis, retour sur l'actualité avec vous deux, une actualité européenne évidemment. Et pour commencer, le dossier le plus brûlant de l'Union européenne et l'histoire sans fin d'un divorce particulièrement difficile.
I profoundly regret the decision that this house has taken tonight.
Vous avez reconnu la voix éraillée, cassée de Theresa May. C'était mardi devant le Parlement britannique et elle essayait une fois encore d'arracher un vote en faveur de l'accord sur le Brexit qu'elle a négocié avec l'Union européenne. D'abord, est-ce que vous y comprenez quelque chose tous les deux au Brexit ? Et à ce feuilleton sans fin, Gilles ?
Alors moi, je suis ça de très près, donc je comprends un peu, mais... Ça ressemble plus les débats au Parlement britannique à un congrès étudiant, de syndicats étudiants, qu'à un débat parlementaire traditionnel.
Le problème, c'est que c'est une vraie question démocratique et c'est une question qui interroge non seulement les citoyens britanniques, mais également les citoyens de l'Union. Et pourtant, on n'y comprend absolument rien, Natacha.
On n'y comprend absolument rien, mais on comprend tout de même deux, trois choses. Premier point, on comprend que les Britanniques ont décidé d'aller au bout de cette démarche qui a été votée par des citoyens. Et on peut rendre hommage à Theresa May, je pense, qui se bat même jusqu'à en perdre la voix pour essayer tout simplement de donner une réalité à ce qui relève d'un vote démocratique qu'elle ne soutenait pas avant. C'est cela qui est très intéressant. Et il faut se souvenir que en juin 2018, les députés britanniques ont décidé de respecter le vote de leurs citoyens. Tout cela mérite d'être rappelé, même si aujourd'hui on est dans un bazar absolument effroyable, en effet, qui ne doit pas non plus nous faire oublier que de toute façon, les Britanniques n'ont jamais été vraiment dans l'Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même chose que si c'était un des membres fondateurs de l'Europe qu'ils quittaient. Les Anglais sont arrivés en 1974, ils n'ont jamais véritablement joué le jeu, ils n'étaient pas dans Schengen, ils n'étaient pas dans l'euro. Et souvenez-vous...
ils n'arrivent pas à en sortir non plus.
Non mais ça c'est...
Ni dedans ni dehors.
On va y venir. Mais ça ne va pas provoquer le séisme absolu dont on nous rebat les oreilles. Ça va être très compliqué, ça peut même poser des problèmes infinis en termes commerciaux, etc. Mais enfin, ils ont toujours, souvenez-vous des batailles entre Margaret Thatcher et Jacques Chirac dans le langage fleuri de Chirac, vous vous souvenez ce qu'il avait dit, qu'est-ce qu'elle veut la mégère, mes couilles sur un plateau. C'est-à-dire que les Britanniques n'ont jamais eu tellement envie de jouer le jeu.
Gilles.
Alors, comme c'est un sujet récurrent et sur lequel nos désaccords avec Natacha sont récurrents, d'abord, ce ne sera pas un séisme. On est le 14 ou le 15 mars. Dans 15 jours, il est possible qu'il y ait une sortie de l'Union européenne sans accord. C'est ce qu'on appelle un no deal. Personne, en réalité, ne comprend ce que ça veut dire. Si on essaye d'expliquer ça de manière très simple, en prenant une image de poupée russe. Vous avez la première poupée russe, la plus petite, qui est l'Union européenne, dans laquelle il y a une union douanière, il n'y a pas de droit de douane, il n'y a pas de formalité administrative, et une union économique, et une liberté de circulation des biens, des services, des marchandises. Vous avez une deuxième poupée russe avec des pays qui, avec l'Union européenne, ont simplement une union économique, la Norvège. Troisième poupée russe, des pays qui ont seulement l'union douanière, la Turquie. Quatrième poupée russe, des pays qui ont des accords bilatéraux, le Canada et quelques autres. Et puis la cinquième, la dernière poupée russe, c'est l'ensemble des pays de l'Organisation mondiale du commerce qui sont ce qu'on appelle des pays tiers. Si la Grande-Bretagne sort sans accord. Elle passe de la première poupée à la cinquième poupée. Or, la Grande-Bretagne réalise plus de la moitié de ses importations et de ses exportations avec l'Union européenne. Elles seront évidemment beaucoup plus compliquées, beaucoup plus coûteuses. Et donc, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences pour la France, il y aura évidemment des conséquences pour le Royaume-Uni.
Natacha.
Bien sûr, que je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de conséquences. Il y en aura et elles seront, pour certains points, sans doute très compliquées. Et ça va poser des problèmes dramatiques à certaines entreprises des deux côtés. Ça, nous sommes d'accord. Mais la question n'est pas là. La question est celle de savoir, évidemment, que les économies sont tellement imbriquées que ça donne quelque chose de très difficilement destructible. On ne peut pas sortir de l'Union européenne facilement. Sauf que si un peuple le décide, il doit pouvoir et en assumer les conséquences. Parce que le message qui consiste à dire « nos économies sont tellement imbriquées que vous n'avez plus le choix », à mon avis, est un message extrêmement dangereux à faire passer, parce que c'est cela qui provoque des révoltes.
Malgré tout, les Brexiteurs ont remporté le référendum en 2016 avec une belle formule, reprendre le contrôle, take back control. Et aujourd'hui, on se demande s'ils vont justement pouvoir reprendre le contrôle de leur destin, reprendre le contrôle de leur souveraineté. Pour vous, Gilles, ça ?
Non, pour la raison,
c'est pas gagné.
Pour la raison que vient d'évoquer Natacha, c'est que ce n'est pas si facile de sortir de l'Union européenne, simplement parce que les intérêts britanniques sont très étroitement imbriqués. Et quand Natacha disait tout à l'heure, Theresa May essaye d'aller jusqu'au bout, pour la première fois, il s'est peut-être passé quelque chose cette semaine. C'est-à-dire que, encore une fois, le Parlement britannique a refusé l'accord. Encore une fois, le Parlement britannique a refusé qu'il n'y ait pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils ne veulent pas, mais ils n'arrivent toujours pas à dire ce qu'ils veulent. Mais pour la première fois, cette date du 29 mars peut-être va être repoussée. Et elle va être repoussée. Et c'est là où il y a eu un petit coup de théâtre. Donc on va voir ce que ça donne la semaine prochaine avec deux scénarios. Le premier, on revote finalement l'accord et on a un délai de 3 mois. Le deuxième, il n'y a pas d'accord. Et c'est là, il y a une sorte de menace par rapport au Brexit. Il n'y a pas d'accord. Et dans ce cas-là, on repart pour 21 mois.
Mais Theresa May, justement, utilise, à mon avis, assez intelligemment cette menace d'un délai très très long pour inciter les Brexiteurs farouches, ceux qui sont pour un hard Brexit, à voter son accord. Elle est en train de jouer ça, elle a gagné quelques voix, elle progresse à chaque fois.
Et si elle nous écoute, elle sera sensible au soutien chaleureux que vous lui apportez à la Première ministre britannique.
Elle en a bien besoin. Je soutiens personne qui est démocrate.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Ces menaces ne servent à rien. Ce chantage ne sert à rien. Tout le monde sait qu'il faudra demain taxer les activités numériques. Et donc j'invite nos amis américains, comme je l'ai fait avec le secrétaire américain au Trésor quand il était à Paris, à venir travailler avec nous, à l'OCDE, à une juste taxation du numérique. Ce sera plus efficace que les menaces.
C'était le ministre de l'économie Bruno Le Maire mercredi. Il répondait aux menaces des autorités américaines après la décision du gouvernement français de taxer les GAFA. Natacha, pourquoi est-ce que vous êtes si critique devant cette décision unilatérale prise par Bruno Le Maire et le gouvernement français ?
Je ne suis pas critique devant cette décision unilatérale. Je pense qu'elle est au contraire extrêmement bonne. Je regrette simplement que nous ne soyons pas parvenus à convaincre nos partenaires européens de la nécessité de le faire. Ce qui est critiquable, ce n'est pas qu'on taxe les GAFA et ce n'est pas que le président et le ministre de l'économie décident de le faire à l'échelle nationale. Ce qui est terrifiant, et je pense que toute personne qui a envie que l'Union européenne serve à quelque chose devrait se le dire, ce qui est terrifiant, c'est qu'on soit obligé justement de revenir à l'échelle nationale, ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les entreprises en Union européenne sont taxées en moyenne à 23%. Les GAFA payent en moyenne 9% de taxes. Vous ne pensez pas qu'il y a un léger problème ? Or, 4 pays ont refusé de taxer les GAFA, c'est l'Irlande, le Danemark, la Finlande et la Suède, mais en sous-main, c'est l'Allemagne aussi qui a refusé et qui a fait que cet accord n'a pas pu exister.
Parce qu'elle veut continuer à vendre des voitures aux Américains.
Eh ben oui.
La question est politiquement très simple. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est inacceptable, parce que les entreprises du numérique paient en moyenne plus de 2 fois moins d'impôts sur les sociétés que les autres entreprises. Elle est inacceptable parce que, au total, c'est 100, 150, 200, peut-être 250 milliards de dollars dont les États sont privés. Donc politiquement, c'est très simple. Techniquement, c'est plus compliqué parce que se pose la question de savoir à quel niveau on taxe, au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Et puis, question plus compliquée encore, de savoir qu'est-ce qu'on taxe, sur laquelle il y a des décisions, des discussions techniques qui sont évidemment très, très complexes.
Mais c'est un échec européen ?
Oui, évidemment, c'est un échec européen. C'est un échec européen, même si, honnêtement, la proposition de la Commission européenne, la première proposition était timide, la deuxième proposition était très timide, et malgré tout, on n'a pas réussi à avancer. Mais si on n'a pas réussi à avancer, c'est aussi parce que, c'est pour les raisons que Natacha vient d'évoquer, mais c'est aussi parce que sur les décisions fiscales, il faut l'unanimité des États. Et donc, si on veut être cohérent jusqu'au bout, je le dis à mon ami Natacha, plus souverainiste que moi, eh bien, il faudrait renoncer, il faudrait se battre pour qu'il n'y ait plus une unanimité sur les questions fiscales.
Je serais plutôt pour qu'on conçoive une Union européenne avec des pays qui ont les mêmes intérêts et qui veulent aller dans le même sens, ce qui serait pas mal. Mais surtout, je rappelle qu'il est en train de se passer quelque chose d'extrêmement intéressant. Aux États-Unis, la campagne des primaires démocrates fait émerger des idées qui sont pas mal. Par exemple, le renouveau des lois antitrust, c'est-à-dire le démantèlement des GAFA. Et je pense que nous devons aussi réfléchir à cela et porter ce projet. Les Américains, en 1890, ont fait la première loi antitrust. Eh bien, allons-y, ça s'appelle le vrai libéralisme.
Juste d'un mot, il s'est passé quelque chose d'autre aux États-Unis et pour une fois, grâce à Donald Trump, ça arrive rarement, c'est que...
Vous allez dire du bien de Donald Trump ? Écoutez bien à tous, non, c'est rare.
Je dis que pour la première fois, des discussions se sont engagées à l'OCDE pour qu'au niveau mondial, une solution durable à cette question-là soit trouvée. Il faut saisir cette balle, il faut aller aussi loin que possible. Il y a 130 pays qui sont engagés dans la discussion. Ça serait de loin la meilleure solution.
Natacha Polony qui applaudit l'aile gauche du Parti démocrate américain. Gilles Finkelstein qui applaudit Donald Trump. Finalement, tout est possible.
Ça n'a rien
C'était
de
un pur procès d'intention.
Bernie Sanders avait un programme très intéressant. J'étais plutôt pour.
Et on aura l'occasion d'y revenir. On va retourner en Europe avec les symboles, les couleurs de l'Europe qui s'affichent ici sur les stands des éditeurs, sur les affiches du Salon du Livre. Et place maintenant au débat avec un intellectuel pour qui l'Europe est aussi une certaine idée de l'amour. Il clame d'ailleurs son amour de l'Europe sur scène, au théâtre. Il est en tournée dans plus de 20 villes d'Europe avec un spectacle « Looking for Europe », à la recherche de l'Europe. Bernard-Henri Lévy vient de s'installer dans le studio de France Inter pour le débat.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Bernard-Henri Lévy.
Bonjour Ali Badou.
Vous êtes de passage à Paris, vous serez sur scène à Vienne lundi soir. Vous connaissez la formule « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé ». Vous ne cherchez pas l'Europe au fond, vous l'avez déjà trouvée, vous défendez une certaine idée de l'Europe et on va en débattre justement avec Natacha et Gilles. On est à 2 mois et demi à peu près avant les élections européennes. Les sondages promettent des records d'abstention, je vais dire comme d'habitude. Et vous, pourtant, vous nous dites que c'est un scrutin historique qui nous attend. Pourquoi ?
D'abord, je pense que c'est un scrutin historique, mais deuxièmement, dans ma tournée, je ne vois pas l'abstention. À Milan, à Bruxelles, à Amsterdam, je vois des gens en foule qui viennent parler de l'Europe. J'étais à Amsterdam avant-hier, au Théâtre Carré, qui est un théâtre de 1700 places. C'était bourré. Il y a des gens qui font la queue. Il y a un désir d'Europe en Europe. Alors, ça arrive peut-être pas dans les médias français.
En Belgique, le vote est obligatoire. En France, en revanche, on peut prendre des paris sur l'abstention.
Le vote est obligatoire et les gens semblent s'en réjouir, car en Belgique aussi, les gens étaient là en foule. Donc moi, je ne partage pas le pessimisme ambiant sur ces élections européennes. Vous verrez qu'on aura des surprises. Parce qu'en effet, c'est une élection historique. Parce qu'on a face à nous une vague populiste de droite et de gauche qui, elle, a choisi de faire de ces élections européennes son terrain de combat principal. Elle s'est mobilisée, elle s'est internationalisée. Vous avez entre Trump, entre Salvini, entre les Le Pen, vous avez une espèce de petit gang qui est en train de se former. Face à cela, je sens qu'il y a une grande majorité d'Européens qui sont prêts à se mobiliser.
Natacha Polony.
Ce qui est toujours frappant, Bernard-Henri Lévy, quand on écoute votre lyrisme pour l'Europe, c'est qu'on ne sait jamais de quelle Europe on est en train de parler. Or, il me semble que si ces élections européennes sont importantes, c'est justement parce qu'elles vont nous obliger à nous demander à quoi doit nous servir l'Union européenne. Vous êtes en train de construire ce combat des progressistes contre les réactionnaires ou quoi. Vous citez Matteo Salvini, vous citez Orban. a raison, les partis populistes qui sont en train de monter. Il me semble qu'il est plus intéressant de se demander pourquoi ils sont en train de monter, plutôt que de se dire que c'est mal qu'ils montent. Et deuxièmement, il serait intéressant de dire aux citoyens qui vont voter ce que l'Europe doit faire pour eux, alors, c'est-à-dire est-ce qu'elle doit nous protéger et qu'est-ce qu'elle d'accord. doit protéger.
Alors moi, ce qui me semble encore plus intéressant, et c'est ça que je fais, c'est ça que je vais dire à Vienne, c'est ça que je vais dire dans ces 22 villes, et c'est ça que je dirai à Paris à la veille du scrutin. Tous les grands sujets dont vous parliez tout à l'heure et dont nous parlons tous depuis des semaines, ils ont comme agora, comme lieu où ils peuvent être délibérés et décidés, l'Europe. Le changement climatique, les jeunes qui défilent aujourd'hui pour qu'on prenne conscience du changement climatique. Vous croyez que c'est le Luxembourg, avec ses petits bras,
mais
qui
va lutter? Attendez. C'est exactement ce que je ne vous ai pas
vous
dit.
Croyez que c'est... Non. Vous croyez que c'est la France tout seul? La seule échelle à laquelle on peut répondre à la préoccupation de ces jeunes gens qui oui. savent que la fin du monde est pour un jour,
mais comment
c'est l'Europe.
Je vous ai dit que la question, c'est comment.
Attendez, les questions, la question de des migrations, la question des mouvements de population, ça n'est gérable qu'au niveau de l'Europe. La question de... vous parliez des GAFA. Échec de l'Europe, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Justement. Il y a
la seule manière dont on peut véritablement instaurer une taxation, une fiscalité juste sur les GAFA, c'est que l'Europe se réveille. Moi, c'est de ça que je parle dans mon texte.
C'est de ce dont nous parlions aussi, Bernard-Henri Lévy. Vous ne dites pas comment on fait pour convaincre l'Allemagne de ne pas poursuivre son intérêt propre et donc de faire échouer une taxe contre les GAFA. Ça, vous ne le dites jamais. Or, le sujet est là. Nous le savons que c'est à l'échelle européenne que ça se joue. Comment fait-on pour que les Européens ne soient pas dans ce nationalisme qui n'est pas seulement celui d'Orban ou de Salvini, qui est celui des Allemands aujourd'hui?
Bernard-Henri Lévy. On commence par arrêter, par défendre les Européens et par cesser cette complaisance étrange que je sens partout avec, dans chaque pays, le souverainisme. Parce qu'on peut pas...
Ça veut dire quoi, le souverainisme?
On peut pas, d'une main, dire bravo le souverainiste et de l'autre main s'étonner...
Qu'appelez-vous le souverainisme?
Le souverainisme, ça veut dire penser que les grandes questions du siècle, on peut les régler à l'intérieur des frontières souveraines des nations. Ce n'est
où
plus vrai.
Où avez-vous entendu ça chez moi?
Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Vous n'êtes pas au centre de tout. Je parle du souverainisme.
Non, mais je vous posais des questions précises des et vous n'y répondez pas.
Ah ben je vous réponds très précisément. On encourage les Européens. On leur explique qu'ils ont raison de vouloir plus d'Europe. On leur donne des munitions et des armes pour essayer de penser une lutte contre la précarité et pour plus de justice sociale à l'échelle de l'Europe, parce qu'on ne peut plus le faire, on le voit bien en ce moment, avec les moyens des États-nations.
Natacha, Gilles, on a beaucoup de sujets à discuter. Gilles Finkelstein.
Alors, moi qui partage sans nécessairement le même lyrisme, la passion de l'idée européenne, qui suis convaincu qu'il y a un modèle européen, qui est un modèle européen spécifique, qu'il doit aujourd'hui être défendu et qu'il y a urgence à le faire, je crois qu'il y a un risque de contradiction entre deux points. Quand on dit, d'un côté, l'enjeu de ces élections, c'est un référendum pour ou contre l'Europe. Et donc, de simplifier, comme dans un référendum, ces élections, alors même que, en dépit de la progression dans beaucoup de pays, des partis populistes, nationalistes, il n'y a pas de menace d'une victoire au sens d'une majorité des partis nationalistes aux prochaines élections.
Ce que vous dites, c'est que Bernard-Henri Lévy agite un épouvantail.
Oui. Et le risque, c'est que
Attendez. Venez avec moi à Gdansk. Vous savez, à Gdansk, c'est pas un épouvantail.
Laissez-moi finir. D'un côté, il y a ça. Moi, je vous le dis avec certitude, les partis nationalistes n'auront pas une majorité au prochain Parlement européen. Ils ne seront même pas le premier groupe et ils ne seront même pas le deuxième groupe. Ce faisant, on risque de mettre sous le boisseau ce que sont les vrais débats de l'Union européenne, de ceux qui sont des pro-européens et dans lesquels il y a des visions différentes. Je crois que l'enjeu de ces élections, s'il y avait de belles élections européennes, ça serait justement de confronter ces visions-là. Quand la nouvelle leader...
Mais c'est Bernard-Henri Lévy, vous répondre.
Oui, quand la nouvelle présidente de la CDU, AKK, répond à Emmanuel Macron. On voit qu'il y a deux visions différentes. Quand vous regardez sur la scène politique française, entre les écologistes, les socialistes, Emmanuel Macron, la droite, ce sont des pro-européens, il y a des visions différentes. C'est ça qui devrait, c'est ce débat-là aussi qui devrait se nouer à l'occasion des élections.
Bernard-Henri Lévy.
Écoutez, moi je voudrais que vous veniez avec moi, mais sérieusement, venez à Budapest, venez à Gdansk, dont le maire a été assassiné. Pavel Adamovic, c'était un grand Européen, c'était un grand de Pologne et un grand d'Europe, et il a été assassiné par des gens qui avaient trop entendu d'appels à la haine, qui avaient trop entendu de mots d'ordre infects comme la Pologne peut en être coutumière aujourd'hui. Venez avec moi en Autriche, où je vais lundi soir, où vous avez un Premier ministre qui a fait alliance avec l'extrême droite la plus dégueulasse. Et le vrai problème, bien sûr que l'Europe en tant que telle n'est pas menacée. Personne ne veut sortir de l'Union européenne aujourd'hui. Sauf qu'il y a dans tous les pays dont je parle...
Des exceptions. La Grande-Bretagne en est magnifique.
La Grande-Bretagne, la messe n'est pas dite. Mais aujourd'hui, le vrai problème, ce sont ces pays d'Europe qui veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qui veulent bien la paix, qui veulent bien les subventions, qui veulent bien les mécanismes de solidarité, mais qui ne veulent pas des valeurs qui vont avec. Or, l'Europe, c'est aussi des valeurs.
Alors justement, ces valeurs, lesquelles ? C'est intéressant parce que ça fait partie de ce que
par
vous
exemple,
clamez sur scène.
Par exemple, l'hospitalité. L'Europe, elle est construite depuis Erasme jusqu'à Vaclav Havel et en passant par les pères fondateurs de l'Europe. Ça, c'est une entité politique nouvelle, sans précédent, qui est bâtie sur l'idée du déplacement des personnes et de l'hospitalité à l'étranger. On ne peut pas dire qu'on est européen si on est contre ces règles d'hospitalité, ni si on est contre l'état de droit. Je pense là, par exemple, aux Hongrois. Il n'y a pas d'Europe sans état de droit. Et tant qu'on ne dira pas ça, tant que Macron ne dira pas ça à Orban quand il le rencontre, tant que il ne sera pas clair que les deux ne sont pas compatibles, l'Europe sera en péril.
Il me semble que la question n'est pas seulement de parler de l'Europe, mais des citoyens des pays de l'Union européenne et de leurs intérêts et de ce qu'il faut défendre. Il y a bien entendu des valeurs européennes et il y a aussi d'autres règles qui devraient être les nôtres.
Et si vous deviez les citer, les valeurs, ce sont les mêmes que celles que vient d'évoquer Bernard-Henri Lévy ?
Mais par exemple, je parlerai de justice sociale, je parlerai de protection des classes moyennes qui sont le fondement de la démocratie. Or, tout cela est attaqué. Et tout cela est attaqué par un système économique qui est en train de laminer ces classes moyennes. Et c'est cela que nous voyons se réveiller aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il me semble que les questions à poser dans cette élection, ce ne sont pas seulement des questions, certes, importantes, mais surtout lyrique sur les valeurs que nous devons partager. Ce sont des questions extrêmement concrètes. Comment on combat le dumping social? Je termine. Comment on combat le dumping social? Comment on combat le dumping fiscal? Qui sont totalement contraires, oui, justement, aux valeurs qui ont fondé l'Union européenne. Comment on fait en sorte qu'un pays comme les Pays-Bas ne soit pas un paradis fiscal?
Or,
ça, vous ne
l'abordez
jamais.
L'Union européenne, elle est bâtie, par exemple, sur l'idée, qui est en partie une idée française, mais qui était aussi une idée britannique, que la liberté et l'égalité ne peuvent pas se faire l'une au détriment de l'autre, qu'elles doivent aller ensemble. Ça, c'est une idée européenne. Or, vous avez aujourd'hui des gens, c'est vrai, qui jouent la liberté et qui se moquent de l'égalité, d'autres qui se lancent dans une bataille pour l'égalité qui se moquent de la liberté. L'Europe doit penser les deux ensemble. C'est aussi une valeur de l'Europe, cela. Et elle mérite d'être défendue.
Quand Natacha et Gilles, vous dites que vous êtes trop lyrique, vous oubliez le quotidien, vous oubliez la justice sociale, les protections, les citoyens.
Mais je ne crois pas. On le voit bien aujourd'hui en France. Un grand État-nation comme la France, une grande nation comme la nôtre, elle n'est pas en mesure de répondre au malaise social et à la précarité. Ouvrez les yeux, regardez ce qui vient de se passer. Une révolte sociale de grande ampleur, une réponse politique de grande ampleur aussi. Parce que le grand débat, c'est une belle réponse au mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui va sortir de cela ? De quel souris la montagne va-t-elle accoucher ? Je suis convaincu que si on veut, par exemple, augmenter le pouvoir d'achat des plus pauvres, je suis convaincu que si l'on veut établir le revenu social universel, le revenu minimum universel dont parlait Benoît Hamon pendant sa campagne électorale, je suis convaincu que si on veut rétablir un impôt sur la fortune ou sur les grandes fortunes qui me semble juste. Cela ne pourra se faire qu'au niveau européen. Ça, c'est des revendications sociales. Ça, c'est des gens qui changent, des choses qui changeraient la vie des gens. On le fera pas en France. On le voit bien. La France et l'État-nation français est arrivé au maximum de ce qu'il peut. Gilles.
Moi qui suis donc un Européen convaincu, comme vous, je ne crois pas que ça invalide pour autant l'importance des politiques nationales. D'ailleurs, quand on regarde les différents États membres de l'Union européenne, on voit que la qualité des politiques publiques qui ont été conduites dans les différents pays a un impact considérable, puisqu'il y a des pays qui vont mieux et des pays qui vont moins bien. Sur l'Europe et sur ses valeurs, si j'essayais de définir vraiment en deux phrases ce que sont les valeurs et les valeurs spécifiques de l'Union européenne quand on les compare à celles des États-Unis et des autres grands ensembles. Il y a à la fois, c'est une démocratie libérale. Et donc l'état de droit sur lequel il faut être exigeant, et il faut être aussi exigeant avec Orban sur les ruptures de l'état de droit qu'on l'est sur les déficits avec les autres États. Donc
et état de droit. Il faut être aussi exigeant qu'on l'a été il y a 20 ans avec Schussel et Haider en Autriche, où on a été beaucoup moins timoré qu'on ne l'est aujourd'hui. Oui. À l'époque, on a menacé, on a sanctionné et on a dit aux Autrichiens, vous pouvez pas avoir le fric.
Ah oui,
c'est il y a 20 ans. C'est une autre époque. Vous pouvez pas avoir l'argent et pas les valeurs.
Donc, démocratie libérale, liberté individuelle, économie de marché régulée et solidarité sociale. Ça, c'est un ensemble européen. Quand on regarde de près, on voit les différences entre nos pays. Quand on le regarde de l'extérieur de l'Union européenne, on voit l'extraordinaire unité de ce modèle et il faut le défendre. Est-ce que là-dedans, il y a l'hospitalité ? Oui, il y a l'hospitalité, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas, dans la campagne qui vient, être simplement un pro-européen qui est une forme de conservateur de l'Union européenne telle qu'elle est. Parce que s'il y a bien
ça, c'est
un
vous
exemple...
faites un portrait de Bernard-Henri Lévy ?
Non, c'est le risque. S'il y a bien un exemple dans
non,
lequel...
Comprenne.
Dans lequel l'Union européenne n'a pas été à la hauteur des enjeux, c'est bien la crise migratoire, la crise des réfugiés que l'on a vécue il y a quelques années, dans lesquelles jamais l'Union européenne ne s'est autant divisée depuis sa création.
Bernard-Henri Lévy.
Elle ne s'est jamais autant divisée et elle ne s'est jamais autant déshonorée que face à cette crise migratoire. Elle ne s'est jamais autant déshonorée. Et moi, ça me rend malade. Voilà. Le fait que Lampedusa... Ce nom magnifique soit devenu le nom de notre veulerie et de notre honte, ça, c'est quelque chose dont tous les Européens sont responsables et c'est inacceptable.
Il y a un autre sujet dont j'aimerais qu'on parle. Quand on parle de l'idéal des pères fondateurs de l'Europe, et vous le faites sur scène, Bernard-Henri Lévy, parmi ce qu'on nous enseigne quand on parle de la construction européenne au collège, au lycée, il y a la paix. Oui. L'Europe, c'est la paix. Ça, pour vous, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce que c'est justement ce que j'aimerais qu'on soumette au débat. Parce que pour Natacha, les choses ne sont pas si simples.
Je crois que les deux guerres que nous avons connues depuis 25 ans sur le continent européen, la première, c'était en ex-Yougoslavie, la série de guerres atroces, et la deuxième, c'est aujourd'hui même en Ukraine, ce sont dans les pays qui sont à la frontière de l'Union européenne. Si l'Ukraine était dans l'Union européenne, comme elle le réclame, comme les jeunes et les moins jeunes du Maïdan le réclamaient, je peux vous dire que Poutine ne se permettrait pas de faire ce qu'il fait dans l'est de l'Ukraine. Donc bien sûr, l'Union européenne a créé un espace de paix. Bien sûr, elle a créé un espace de prospérité. Mais le plus important...
La paix d'abord.
Eh bien oui, bien sûr.
Natacha.
On aurait... Juste une chose, pardon, Bernard-Henri Lévy.
On prenne les points les uns après les autres.
L'Union européenne est un produit de la paix de 1945, est un produit aussi de la guerre froide. Et ce qui a provoqué les guerres dont vous parlez, c'est peut-être aussi la politique américaine d'extension de l'OTAN et les conséquences que cela a eues. C'est pour ça qu'il faudrait... Il faudrait se poser la question de savoir si aujourd'hui nous sommes capables de penser une Union européenne qui soit indépendante, notamment évidemment de la Russie, évidemment, mais aussi des États-Unis pour créer une véritable Europe puissance. Vous nous parlez de la fin des États-nations comme si ça devait être balayé. Pour l'instant, les États-nations sont le lieu d'exercice de la démocratie, alors que l'Union européenne cherche encore sa démocratie parce qu'elle a été petit à petit dévoyée au fur et à mesure de l'actualité.
L'exercice de la démocratie, je vous le répète, c'est le lieu où on peut réfléchir et réagir au changement climatique. Le lieu d'exercice de la démocratie, c'est le lieu où on peut empêcher l'horreur de ce qui vient de se passer en Nouvelle-Zélande. Par parenthèse, d'ailleurs, ce matin, le leader du monde libre, ce matin, c'est plus Donald Trump, c'est la courageuse première ministre de Nouvelle-Zélande qui a su trouver les mots beaux et justes par rapport à l'horreur de ce qui s'est passé
Attendez.
Donc c'est la démocratie, c'est ça, c'est combattre l'islamisme, d'un côté l'islamisme radical et de l'autre côté la vague néo-fasciste qui a frappé en Nouvelle-Zélande comme elle avait frappé en Norvège et comme elle menace de frapper ailleurs. Pour traiter ces questions-là, pardonnez-moi, l'État-nation, il a beaucoup de qualités, il a beaucoup de responsabilités qu'il est le seul à pouvoir remplir. Mais ce n'est pas lui qui répondra à ces défis-là.
Je vous pose la question démocratique. Nous avons une Union européenne qui n'est pas seulement celle de la paix, celle de la lutte contre les extrémismes, et il en faut, mais c'est aussi une Union européenne qui signe des traités de libre-échange dans le dos des peuples, qui mène des politiques qui aboutissent à une désindustrialisation majeure. C'est à ça qu'il faut répondre pour éviter que des citoyens ne se détachent de l'Europe.
Bien sûr qu'elle doit être plus démocratique. Bien sûr qu'elle doit être plus sociale. Bien sûr qu'elle doit être plus...
Ça fait 40 ans qu'on nous dit elle doit et qu'on ne le fait pas.
Écoutez, moi, ça ne fait pas 40 ans que je parle. Moi, je parle depuis quelques semaines avec un texte que je vous invite à lire. Un exemple. Les banques européennes ont été très fortes pour faire cette chose qu'on a appelée le quantitative easing, c'est-à-dire donner de l'argent aux banques des États-nations. Moi, je prône, et c'est possible, un quantitative easing pour les ménages, pour le pouvoir d'achat, pour les citoyens européens. Autre exemple, le chômage de longue durée, la précarité installée. Je prône, dans ce texte, que je voudrais que vous lisiez,
On ne peut pas le faire à l'échelle d'une nation, à l'échelle de l'Union européenne. Écoutez-vous, Natacha Vouzalu, et je vous assure que c'est quelqu'un de scrupuleux et que elle et Gilles ont lu votre texte de près.
On va rester sur la question démocratique.
Gilles Finkelstein, sur la question démocratique et l'Europe démocratique dont on a l'impression qu'elle est lointaine, de plus en plus lointaine pour les citoyens.
Je repars de la paix. L'Union européenne, c'est la paix. C'est une réponse à la guerre, mais c'est aussi un garant de la paix. Et on parlait tout à l'heure du Brexit. On voit qu'un des sujets sur lequel le Brexit achoppe est la question irlandaise, et notamment la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, avec le risque de réactiver cette guerre civile. Le problème est que lorsque l'on mobilise l'argument de la paix, ça paraît, à tort ou à raison, très lointain pour beaucoup de nos concitoyens, et que je crois qu'on ne peut plus se contenter de l'Europe, c'est la paix, et que les autres sujets, l'Europe, la démocratie, le développement économique, la solidarité, ça doit être au cœur de cette campagne.
Valérie Lévy. Mais moi, je ne me contente pas de l'Europe, c'est la paix. Pour reprendre les choses autrement, aujourd'hui, nos pays, la France, par exemple, sont menacés par quoi ? Ils sont menacés par la folie de Donald Trump. Ils sont menacés par l'agressivité politique de Vladimir Poutine et de la Russie. Ils sont menacés par l'impérialisme chinois, impérialisme pour l'instant économique. Attendez, ils sont menacés par Monsieur Erdogan et par les frères musulmans. Et ils sont menacés par la vague brune et la vague néo-populiste. Bien, je vous dis que face à ces menaces-là, ou bien on va en ordre dispersé, chaque petite nation dans son coin, ou bien on forme un bloc politique qui se renforce, qui se donne des instruments politiques plus efficaces que ceux qu'il a aujourd'hui, qui se donne un visage. Et parce que il n'y a pas de politique sans visage. Kissinger disait l'Europe n'a pas de numéro de téléphone. Pour avoir un numéro de téléphone, il faut avoir un visage.
Mais
il
qui sera ce visage de l'Europe aujourd'hui?
Eh bien, il faut...
Regardez toutes les têtes de liste qui se présentent aujourd'hui aux élections européennes en France. Ce sont de nouveaux visages.
Oui.
Est-ce que vous en voyez un plus qu'un autre incarner justement le visage de l'Europe?
Non, mais j'en vois un, par exemple. Il y a quelqu'un qui va prendre sa retraite de la politique allemande, paraît-il, semble-t-il, et je le regrette beaucoup, bientôt, dans 2 ans, qui est Angela Merkel. Je verrai bien Angela Merkel porter
le projet européen. Mais les Français ne peuvent pas voter pour elle.
Eh ben, imaginons un instant que les Européens soient un peu plus audacieux. Imaginez un instant qu'on se dote enfin d'un président des États-Unis d'Europe, un jour, élu au suffrage universel. Et imaginez qu'il y ait une compétition à la loyale entre des femmes et des hommes politiques européens.
Pour ça, il faudra
européens.
Un saut fédéral.
Ah, il faudra... mais moi, je suis absolument partisan de ce saut fédéral. J'aime mon pays, je suis un patriote français. Je pense que l'État-nation français n'a pas du tout fait son temps. Mais je suis, pour certains sujets, ceux dont je viens de vous parler, comment on fait pour tenir tête à Poutine, comment on fait pour tenir tête à Trump, je suis partisan d'un saut fédéral, absolument.
Natacha, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que vous citez comme visage potentiel pour l'Europe une dirigeante qui n'a strictement rien fait pour faire progresser l'Europe, bien au contraire. Angela Merkel a un bilan qui prouve qu'elle a toujours refusé tout ce qui pouvait faire en sorte qu'il y ait plus d'union entre les pays européens, puisqu'elle a défendu exclusivement l'intérêt allemand. On l'a vu sur des sujets aussi divers que la taxe sur les GAFA, que la question des panneaux photovoltaïques chinois qu'elle a refusé de taxer parce que là encore ça allait mettre en danger les intérêts allemands. Donc vous prouvez par là que vous n'êtes pas dans la réalité, dans le concret.
Mais je suis on pourrait entrer dans le détail. Je suis absolument en désaccord avec ce que vous venez de dire, que ce soit au moment de la crise grecque, que ce soit au moment de la crise des réfugiés, que au
mais
moment
elle
où elle a accepté d'ouvrir les portes de l'Allemagne à ses femmes, à ses hommes et à ses enfants qui fuyaient la guerre et qui fuyaient la dictature, je pense qu'elle a honoré les valeurs de l'Europe.
Une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec Natacha Polony sur cette question-là. Angela Merkel a été une grande dirigeante de la République fédérale d'Allemagne et elle a un rôle dans la place qu'occupe aujourd'hui l'Allemagne.
Mais j'aimerais qu'on sorte aussi de la politique fiction et qu'on revienne en France parce que les Français, les électeurs français ne voteront pas pour Angela Merkel. Ils auront à voter le 26 mai prochain.
En revanche, ça a été une Européenne extrêmement timorée. Pendant la crise financière de 2008, Nicolas Sarkozy, pour le coup, que je défends là aussi rarement, a souvent eu des initiatives qu'elle a freinées. Pendant la crise grecque, ça a été la même chose. On parlait il y a quelques instants de la taxation des GAFA. C'est encore une fois, là aussi, l'Allemagne qui était en retard. Donc, je ne partage pas le même enthousiasme sur Angela Merkel et je ne partage pas non plus, alors même que je suis pour le coup un fédéraliste, l'enthousiasme de Bernard-Henri Lévy sur l'idée d'élire un futur président de l'Europe au suffrage universel direct.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Parce que c'est totalement... On a une espèce d'obsession présidentielle en France. Ce n'est pas la culture politique d'aucun autre pays, à peu près, dans l'Union européenne. On a pour le coup des élections au Parlement européen dans quelques semaines. Il y aura des têtes de liste de chacune des grandes familles politiques. Eh bien, les premières figures de l'Europe, c'est celle-là.
Bernard-Henri Lévy.
Oui, c'est celle-là, et tant mieux. J'espère que les populistes y seront le moins nombreux possible et que les démocrates y seront le plus nombreux possible. Mais je vous dis que ça ne suffira pas.
Mais le 26 mai prochain, qui incarnera le visage de l'Europe pour vous lorsque vous aurez à voter?
Lorsque j'aurai à voter en France, la tête de liste de La République En Marche incarnera pour moi le visage de l'Europe. Mais je vais répondre à Gilles Finkelstein en un mot. Prenons le cas de l'euro, la monnaie commune, l'euro. Moi, je vais vous faire un pronostic. S'il n'y a pas ce pas en avant dans le sens du fédéralisme, l'euro ne tiendra pas. Il n'y a pas un exemple de monnaie commune dans l'histoire moderne qui fonctionne sans une politique fiscale commune, sans une politique budgétaire commune, ainsi de suite. L'histoire du dollar aux États-Unis. Le dollar a mis, contrairement à ce que l'on croit, un siècle à s'imposer, et il ne s'est imposé, hélas, contre toutes les autres monnaies qu'il y avait sur le territoire américain, des francs, des thalers et autres, qu'après la guerre de sécession, c'est-à-dire à partir du moment où les États-Unis se sont décidés à devenir un pays fédéral.
Gilles, mais une attache à
l'État fédéral. Alors, vous avez mille fois raison sur l'euro. Mais là où il y a une contradiction incroyable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un budget de la zone euro, oui. qu'il faut un ministre des Finances oui. de la zone euro. Et quel est le pays qui s'y oppose? C'est Angela Merkel. Emmanuel Macron a proposé ça dans son discours de la Sorbonne. Eh bien, et on n'avance pas.
Oui, mais pour l'instant, Emmanuel Macron, il est président de la République française et j'espère qu'il va le rester et qu'il va le rester le maximum de temps possible.
Bernard-Henri Lévy, juste un point, puisque je partage entièrement l'idée qu'il faut que l'euro devienne une monnaie qui soit une monnaie de réserve concurrente du dollar et que pour ça, il faut lui donner une véritable existence. Et en effet, l'Allemagne ne veut pas. De même qu'il faut que nous ayons la capacité de souveraineté militaire, une souveraineté énergétique. C'est tout cela qu'il faut penser, encore une fois.
Européenne.
Et quand vous... Oui, bien sûr, européenne, oui, mais bien entendu. Bien entendu.
Oui, c'est intéressant de voir que vous êtes d'accord.
Sauf que ça... Ça ne se fera pas avec des grands discours, d'autant que vous nous dites « je suis pour que les démocrates gagnent ». Qui sont les démocrates dont vous parlez? Quand vous avez Jean-Claude Juncker qui dit à propos de la Grèce qui a voté, qui a élu un gouvernement, il n'y a pas de démocratie en dehors des traités européens. Ce qui signifie que sa vision de l'Europe, c'est qu'elle enferme, alors que la définition de la démocratie, c'est que une génération n'a pas le droit d'enfermer les générations suivantes. Ce que le peuple a fait, le peuple peut le défaire. Tant qu'on aura des gens qui ne sont pas démocrates qui dirigent l'Union européenne, les peuples s'en détacheront.
Pour l'instant, les non-démocrates, pardonnez-moi Natacha Polony, qu'il y a un déficit démocratique à la Commission européenne, je suis d'accord. Mais le vrai déficit démocratique, il est chez ces partis populistes, anti-européens, qui veulent soi-disant reprendre le contrôle et qui sont en train de le perdre, qui veulent soi-disant récupérer leur souveraineté nationale et qui sont en train de se mettre à la remorque de Steve Bannon ou de
mais
Poutine.
Mais l'un n'exclut pas l'autre.
Jean-Claude Juncker leur donne raison et les fait monter, ces gens-là.
Oui, les choses sont à une échelle différente.
Il reste un peu
moi,
de temps,
lorsque j'entends, Matteo Salvini, par exemple, le ministre de l'Intérieur italien, ou lorsque je le vois, le vice-premier ministre, lorsque je le vois évoluer, lorsque je le vois menacer un compatriote écrivain comme Roberto Saviano, pardonnez-moi, le déficit démocratique, c'est là qu'il est, il n'est pas chez Jean-Claude Juncker.
Alors, pourquoi d'un mot, Natacha. Matteo Salvini, c'est ça la question à se poser, comment les citoyens en arrivent là? Peut-être parce qu'ils ont eu pendant des années des gens qui leur ont dit « On se fout de ce que vous pensez, on va vous imposer notre vision de l'Union européenne en signant des traités de libre-échange dans votre dos, en laissant des lobbies contrôler totalement le Parlement. » C'est tout ça qui va... C'est lutter contre ça qui va empêcher de faire monter les populistes. De leur dire que c'est mal.
Pour l'instant, tout le monde est d'accord pour lutter contre les lobbies. Tout le monde est d'accord. Ben si, écoutez, tout le monde est d'accord à commencer par dans notre pays pour écouter la voix du peuple lorsqu'elle demande plus de justice et plus de droits. Après... Il arrive que les peuples se trompent. Le peuple anglais s'est trompé. Cela arrive.
En 2005, est-ce que le peuple français s'est trompé, Bernard-Henri Lévy?
Le peuple français s'est trompé, bien
sûr. Sur le référendum européen.
Je pense que c'était une erreur. Et je pense que nous serions sortis, non seulement de l'Europe, mais nous serions sortis de la scène de l'histoire si nous avions suivi cette voie-là.
Gilles Finkelstein, puis Natacha. J'imagine que Natacha n'est pas d'accord avec Bernard-Henri Lévy et sa lecture de l'histoire du référendum de 2005.
Je vais pas revenir. On va revenir indéfiniment sur le référendum de 2005.
Oui, mais événement structurant dans la vie démocratique française et même au-delà.
Absolument. C'est un événement structurant. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après et que le visage de l'Europe, durablement, ne sera pas le même en raison de ce choix-là. Mais il faut maintenant...
Du choix, du peuple français ou du choix ensuite d'imposer de Lisbonne en 2008.
Non, du choix du peuple français d'avoir refusé la Constitution européenne. C'était pour le coup un saut symbolique qui était absolument considérable. Ça ne s'est pas fait et maintenant il faut penser l'Europe à partir de ça.
Natacha.
Je vous rappelle qu'il y avait dans ce texte qui était censé être une constitution, enfin une constitution quand même, c'est normal qu'on demande son avis au peuple, déjà. Ensuite, il y avait dans ce texte des règles qui étaient des règles économiques, qui imposaient un système économique, ce qui est absolument aberrant dans une constitution, et que c'est tout ça qu'a rejeté le peuple français, et il n'est pas le seul d'ailleurs. Et surtout, La question à se poser, encore une fois, c'est de savoir comment on construit les instruments qui vont permettre au peuple d'exprimer ce qu'ils veulent. C'est très gentil de dire que les peuples se trompent. Oui, les peuples se trompent. Bah, il faut l'assumer. En effet, je ne suis pas sûre que ce soit génial, le choix des Britanniques. Je pense même que les Brexiteurs veulent un modèle économique de libre-échange total qui ne me convient pas, bah, pour autant qu'ils l'assument.
L'une des plus sûres manières d'aider le peuple à se tromper, c'est par exemple de lui poser des questions idiotes. La question du Brexit était une question. Le référendum sur le Brexit était une initiative.
Mais ça dépend lesquelles.
Demander au peuple britannique de répondre par oui ou par non à la question de savoir si la Grande-Bretagne devait rester dans l'Union européenne ou non était une escroquerie. Parce qu'une question. Attendez, une question. Mais bien entendu, une escroquerie instrumentalisé, alimenté par les Nile Farage et autres, alimenté par les mensonges, par les fake news, par les désinformations. Une question sur laquelle on n'arrive pas. Regardez ce qui se passe depuis 3 ans. Des centaines d'experts, des milliers de pages, de la bonne volonté de tous les côtés, on n'arrive pas à la trancher. La question du statut de la Grande-Bretagne par rapport à l'Union européenne. Vous pensez qu'il était sérieux de demander au peuple britannique de répondre par oui ou par non à cette question-là?
Juste je complète d'un mot. C'est la raison pour laquelle un deuxième référendum qui ne serait pas un référendum sur le Brexit, mais qui serait
Vous êtes d'accord avec Bernard Lévy?
Je vais plus loin. Qui serait un référendum qui serait un référendum sur quel choix? On sort sans accord. L'accord qui a été négocié entre Theresa May et l'Union européenne, c'est un autre choix, c'est différent, ça n'existait pas au moment du référendum. Ça, c'est un vrai référendum dans lequel le peuple est soumis à des choix qui sont des choix précis et concrets.
Mais les peuples peuvent se tromper, Gilles.
Évidemment.
Évidemment, Natacha.
Bien sûr que les peuples peuvent se tromper. Pour autant, la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Et donc, il y a un moment où il faut assumer les choix des peuples. Mais juste, on peut aussi décider qu'on ne pose aucune question au peuple. Par exemple, en 2005, on nous a expliqué aussi qu'il ne fallait pas poser la question et que de toute façon, on a reproduit à chacun de ces référendums, à chacun de ces votes, la même rhétorique qui consiste à dire aux citoyens, de toute façon, si vous ne votez pas pour ce modèle-là, vous êtes pour la guerre, vous êtes pour la xénophobie, ce qui est une folie. Encore une fois, il faut demander aux citoyens pour quelle Union européenne ils sont. Et là, on a des choix. Ils sont sans doute pas pour celle qui est aujourd'hui en vigueur, qui soutient le libre-échange, qui soutient l'absence de protection, le dumping social et le dumping fiscal.
On peut rêver que ces questions soient posées au cours de la campagne pour les élections européennes qui commence.
Qu'elles soient posées. Débattu.
L'émission se termine, Bernard-Henri Lévy. J'ai une question à vous poser. L'Europe, vous disiez ça dans le Corriere della Sera, vous l'avez peut-être même dit en italien. L'Europe, c'est aussi une certaine idée de l'amour. Oui. Et pour terminer cette émission, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aimerais que vous nous expliquiez ça. L'Europe, c'est l'amour.
C'est une certaine idée des relations entre les hommes et les femmes. C'est une certaine idée de l'égalité entre les sexes, c'est aussi une certaine idée de la vie et de la douceur de vivre, c'est aussi cette tradition-là, c'est aussi
déçu, je pensais que vous alliez nous parler de sensualité, de romance.
C'est une certaine idée de la romance, une certaine idée de la sensualité, bien sûr, oui. C'est la détestation de la brutalité. C'est pas seulement valable en politique, c'est valable aussi là dans les règles de douceur qui sont de mise entre les sujets.
C'est beau, vous partagez là pour le coup le lyrisme de Bernard Lévy. D'un mot, Gilles et Natacha, on va devoir rendre l'antenne.
J'adore.
Natacha ?
En effet, il y a une façon d'être au monde et un rapport à la beauté et à la douceur de vivre qui est assez spécifique.
L'amour peut être brutal aussi parfois. Non.
On est en train de parler de beauté.
C'est un autre débat.
Je ne crois pas.
Merci Bernard-Henri Lévy. Looking for Europe. Les dates de la tournée sont sur la page du Grand Face à Face de France Inter. Natacha et Gilles, je vous dis à samedi prochain. Ne manquez pas les rendez-vous d'Inter ici en direct du Salon du Livre. Et notamment, on va déguster du fantastique François-Régis Gaudry. Ce sera demain à 11h. Et ça tombe bien, le studio de France Inter est aux antipodes du McDo du Salon du Livre.
CO2, mon amour de Denis Chessous, c'est de 14h à 15h. Et merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation, Céline Hila, à la technique, Florent Layani, Sandrine Malon, Stéphane Beaufils. Merci à vous, public, nombreux et chaleureux, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions Politiques avec Xavier Bertrand, à suivre sur Inter, les secrets d'info.